Daniel Mermet, c'est maintenant. Bip.
Et voilà, on est dimanche soir. Il est 21h30 à peu près. Puis je reviens à pied de la place Stalingrad. Et je vais me coucher. Comme ça, je me réveillerai tôt demain. Mais quand même, j'allais me coucher. Salut à tous.
Le répondeur de la basse issue, c'est un défouloir. Et ben moi, j'ai besoin de me défouler. On est dimanche, il doit être 9h moins quart. J'ai vu les résultats des élections et voir le Front National à 20%. Putain, j'ai mal au cœur. Mais j'ai mal. 20% le Front National. 20% le Front National. Oh là 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 là, putain, 20%. Et comme il dit Mélenchon, heureusement qu'il a fait sa campagne à combattre le Front National pendant que tous les autres lui tapaient dessus. Ça se trouve, il aurait fait beaucoup plus. Allez, bonne semaine. Merci.
Soirée électorale. Marine Le Pen vient de dire son opposition au candidat de la gauche libérale, laxiste et libertaire. Les commentateurs de France Inter, probablement frappés de dyslexie politique, relèvent l'orientation sociale et nationaliste de son discours. Social-nationaliste, somme toute, oui, ça passe mieux à la radio. C'était Philippe de Ferrals et Montagnes.
Je viens de voir un journaliste qui interviewait une porte de voiture à près de 60 km/h. C'était très marrant. Enfin, c'est peut-être la seule chose qui m'ait fait rire ce soir en tout cas. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, la portière de voiture, elle n'a rien répondu aussi. Bon courage à tout le monde.
Lemps, petit village ardéchois du Nord-Ardèche, 400 et quelques votants, 97 Marine. J'ai honte, j'ai mal à ma France, j'ai mal à mon Ardèche, c'est la misère. Franchement, j'ai honte. Alors aux armes, comme a dit Jean-Luc, aux armes, luttons, et puis luttons surtout avec notre caboche, hein, ça changera un peu des autres. Bon, allez, salut les AMG, c'était Elodie, du Nord-Ardèche.
Oh, ben c'est bizarre. Il avait pas l'air content, Jean-Luc Méchancon, hier soir. Ah, pourtant, il en a fait des efforts. Le révolutionnaire de sous-préfecture, le gnome grimaçant, le génie des Carpates, le Ceausescu au petit pied. Mais apparemment, il ne suffit pas qu'un psychopathe braillard rassemble 100 000 décervelés à la Bastille, venus entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, pour passer devant Marine. Oh, tous ces efforts pour pas grand-chose. Oh, pauvre Jean-Luc Méchancon.
Allô Daniel, ouais, moi je viens d'avoir une idée là, en écoutant les affranchis. Apparemment, les gens n'ont pas le droit de dire pour qui ils sont à la radio, sinon c'est décompter du temps de parole de ces candidats-là. Donc moi je dis vive Sarkozy, j'espère qu'il sera réélu. Et j'espère que toute ton émission comptera comme temps de parole officiel de Nicolas Sarkozy pendant... aujourd'hui, et puis je pourrais passer ce message demain, enfin pour que un peu tous les jours pendant 2 semaines, ça fasse une heure décompter du temps de parole de Nicolas Sarkozy, et comme ça, une heure en moins à l'entendre lui. Allez, ciao, et puis courage à tous, salut.
Salut à tous, salut à toutes, Fred d'Aubagne. Bon ben voilà, hein, ce matin, je me lève, la bouche amère, un peu là. Mal à la tête. Non, j'ai pas fait la fête. J'ai vu les résultats des élections. Et ben c'est pas brillant. Et ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que finalement, tout le monde est content. Et ça, je trouve ça fou. Voilà, bon, Hollande et Sarko, ils sont contents, ils comptent les voix là, bulletin par bulletin, chez qui ils vont les taper pour récupérer les voix. Bérou, il est content, bon, pourtant il prend une casquette. Mélenchon, il est content parce qu'il fait. Deux chiffres, pourtant, c'était pas ses espoirs. Voilà, bon, les partis d'extrême-gauche doivent un petit peu l'avoir amer, mais ils attendaient guère plus de cette élection. Voilà, si, il y en a une qui est contente, c'est Marine Le Pen. Et à mon avis, elle est contente à double titre, de par son score, mais surtout par rapport à l'inertie totale des autres partis et de tout le monde, qui finalement, comme elle n'est pas au second tour, ça fait pas le même raz-de-marée que la dernière fois. Pour autant, son pourcentage est bien plus élevé. Mais non, on est dans le spectacle, et donc comme elle n'est pas au deuxième tour, on minimise. Mais les idées puantes sont bien là, pourtant. Elles sont ancrées, elles font 20%, ou les avoisinent. Dans certaines villes, elles les dépassent très largement. Ouais, ben quand on se retourne, il y a plus de 2 personnes sur 10 qui ont ces idées nauséabondes de racisme, de mépris, de déremboursement, de l'avortement, et j'en passe, et des moins bonnes. C'est absolument fou. Allez, je suis un petit peu dégoûté, vous l'aurez compris, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Vivement le troisième tour. Ciao, ciao.
Voilà quelques messages dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au cours de ce week-end. Vous avez compris, il y a une certaine déception, mais pas seulement, vous allez voir. En tout cas, aujourd'hui, on va faire le premier tour vu de là-bas. C'est-à-dire que toute la bande de là-bas, si j'y suis, Gaylord, Sarah, Antoine, Pascal, Yann et votre serviteur, on s'est répandu à travers Paris et à Stalingrad avec le Front de Gauche, à la Mutualité avec l'UMP, au Front National, au Parti Socialiste. On a vécu cette folle soirée et on va vous en faire entendre quelques échos tout chauds. Des échos parfois un peu épuisants, passionnants, consternants, espérants, etc. Mais c'est quand même des moments, ces moments étranges, rares, sans doute trop rares, où quelque chose de nous-mêmes, de notre société, de ce pays, se montre, parfois très brutalement, parfois de manière délirante, excessive, cruelle, ou bien très belle, c'est comme on voudra et c'est comme on voit. En tous les cas, c'est comme on vit et c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on a vécu hier et qu'on est sous le coup. On n'est pas tellement sous le charme, il faut bien dire les choses pour ce qui nous concerne, vous connaissez la maison. En tous les cas, c'est ce qu'on va vous raconter, vous montrer jusqu'à 16h dans là-bas, si j'y suis, le premier tour vu de là-bas. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, 01 56 40 37 37.
Salut, c'est Laurent, je vous appelle de Montréal, au Québec. Tout à l'heure, je suis allé voter avec les Français d'ici. Beaucoup de monde et beaucoup qui portaient le carré rouge, et ça fait très plaisir. Mais savez-vous ce que c'est que le carré rouge? C'est un petit carré de tissu qu'on accroche à ses vêtements, un petit morceau de duct tape qu'on colle un peu partout dans la ville, sur les poteaux, sur les panneaux, un peu partout. Bon, ben, le carré rouge, c'est le symbole de la révolte étudiante. Les étudiants du Québec sont en grève massivement depuis, tenez-vous bien, depuis 10 semaines. Ils s'opposent à la hausse des frais de scolarité. Il y a une grande solidarité, un grand soutien aux étudiants, syndicats, partis de gauche, associations, tous ensemble contre l'austérité. On fait de grosses manifs, il y en a eu une grosse la semaine dernière, on remet ça dimanche le 22. Il y a un mois, c'était le 22 mars, on a fait une manif monstre, il y avait 200 000 personnes dans un pays de 8 millions d'habitants, imaginez. Probablement la plus grosse manif de toute l'histoire du Québec. Néanmoins, le gouvernement reste inflexible, c'est un gouvernement libéral, le parti libéral. L'austérité, il appelle ça, vous allez rire, il appelle ça la révolution culturelle. Hein. Vous voyez l'ambiance, ça joue de plus en plus dur, la répression s'aggrave, les flics sont lâchés, les chiens de garde de la presse aussi, les tribunaux cognent, ça dégénère ici et là. Bon, certains espèrent voir un printemps québécois, comme il y a eu le printemps arabe, on verra. N'empêche qu'il serait temps que les Français entendent parler de ce mouvement qui est loin d'être anodin. Puis voilà, bon, c'était juste pour vous faire savoir que ça bouge ici aussi en Amérique, et ça bouge rouge.
Hello, je m'appelle Kate. Alors, j'étais très excitée d'avoir mon premier vote en France depuis que j'ai eu la nationalité française. Je suis née en Écosse. Et alors, j'ai voté pour mon héros, Monsieur Mélenchon, et je voulais... À propos de rien, je voulais mettre les petits bisous en rouge à lèvres sur le papier dans l'enveloppe, mais j'ai pas fait. Je ne voudrais pas ruiner la vote. Alors maintenant j'attends et je suis nerveuse. Mais c'était bon. Merci. Au revoir.
Pour redresser la situation, une branlette... Pour redresser la situation, une branlette, nom de nom...
Là, sur TF1, il y a Claire Chazal et Laurence Ferrari réunis, tout en blanc, avec un fond, un visuel derrière qui représente l'Elysée.
Il est précisément 19h59. Alors là, on est place Stalingrad et les résultats officiels pour le premier tour vont être annoncés. Hein.
Dans une minute exactement, nous connaîtrons le nom des deux qualifiés pour le second tour de cette élection présidentielle 2012.
Le décompte est lancé.
Et les résultats vont tomber dans 30 secondes maintenant.
Premier tour vu de là-bas, si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Gaylor, Sarah, Antoine, Pascal, Yann et toute la bande. Alors on attend les résultats. Ici on est à la rotonde à Stalingrad. Il y a une foule qui se serre autour du podium. Il y a une sono, des crans, des tentes tout autour. Derrière, il y a le bassin, magnifique bassin de la Villette, un beau ciel au-dessus de tout ça. Et cette foule qui est là, fidèle, qui scande, qui espère, c'est déjà probablement... Ça, c'est des images qu'on voit sur l'écran à chaque fois qu'apparaît soit Le Pen, soit Sarkozy. Alors, dans toutes les familles de France, ce soir, tout le monde est sur le canapé, devant la télé, en train de regarder. Et là, finalement, c'est collectif. C'est ça, le fond de gauche. Déception, espoir, victoire, effervescence en tout cas. Et vous savez comment ça a fini, au moins là où nous sommes, où nous commençons, c'est-à-dire à Stalingrad. Eh bien, ça a fini avec le marchand de merguez qui a remballé sous la pluie, le marchand de merguez de Stalingrad, et qui pourtant avait préparé des tas de brochettes, des tas de merguez, des tas de bières et de coca. Il avait fait tout un stock de fêtes, et tout ça lui est resté sous les bras. Le marchand de merguez de Stalingrad est reparti vers Jaurès. Entre Jaurès et Stalingrad hier soir, c'est-à-dire entre le tribun socialiste le plus cité, qui fait toujours référence à tous, et puis la bataille héroïque, celle de Stalingrad, qui a stoppé la peste brune et renversé le cours de l'histoire. Voilà où nous étions, entre autres, hier soir. Et le marchand de merguez n'est pas le seul à être reparti sous la pluie, mais des milliers qui étaient venus là, battants, vibrants, serrés, et puis la claque, lorsqu'ils ont vu les chiffres de Marine Le Pen, du Front National, par rapport à ceux de leur leader, Jean-Luc Mélenchon, et du Front de Gauche. Alors, on a vécu ça, on va revivre ça, comme vous imaginez qu'on le fait, comme d'habitude, c'est-à-dire par les gens, par la base. On aura un entretien avec Jean-Luc Mélenchon, un Jean-Luc Mélenchon assez inattendu, mais on n'était pas que là. On était aussi à la mutualité, avec l'UMP. On aura aussi des échos du Front National, et puis évidemment le Parti Socialiste, la victoire du Parti Socialiste. Voilà, c'est notre parcours du jour, le premier tour vu de là-bas.
Les Français ont besoin d'autorité, de crédibilité, de force.
Marine Le Pen, aussi élevée par rapport à François Bayrou, c'est une bonne nouvelle.
Je ne sais pas si on raisonne en termes de bonne nouvelle, il y a une demande très forte des électeurs français d'autorité, de protection, de tout ce qu'incarne Nicolas Sarkozy. Si les Français veulent plus de laxisme, plus de dépenses publiques, plus d'assistanat, ils ont François Hollande. S'ils veulent plus d'autorité, plus de protection, ils ont Nicolas Sarkozy. Et c'est ce que nous allons leur expliquer pendant ces 15 jours.
C'est un peu un appel du pied à l'électorat frontiste, ce que vous faites.
Mais c'est un appel du pied à tous les Français. Tous les Français, y compris, oui, y compris les électeurs du Front National, qui sont des Français comme les autres.
Ça, c'était Guillaume Pelletier, le porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Sarkozy.
truc. Pour Radio France, France Inter.
Ah oui, c'est encore une radio de gauche, ça.
Ah bon, vous pensez?
Ah, ils sont tous à gauche.
À France Inter.
Oui, c'est drôle. Alors, France Inter, RMC.
RMC, ils sont à gauche.
Oh là là, comment il s'appelle? Bourdin.
Bourdin, il est à gauche, il est de gauche.
Oh là là, mais c'est le virulent à gauche.
Et Europe 1, c'est à gauche aussi?
Oui. Mais non, mais la télévision, tous les journaleux de médias sont de gauche. C'est pour ça qu'ils n'ont pas arrêté de taper sur Sarkozy tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est insupportable. Insupportable. Alors, non seulement il y avait les 9 candidats en face qui lui tapaient dessus, mais en plus tous les journalistes. Alors, il s'en est bien sorti, je trouve, là, tu vois.
Quel est votre prénom?
Ah ben justement, c'est là que c'est drôle. Je m'appelle Victoire. Et c'est vrai.
Vous faites quoi dans la
vie? Donc la fille, mais je suis retraitée, je suis âgée, j'ai 70 ans.
Vous avez fait quoi dans votre vie?
J'ai bossé, figurez-vous, comme fonctionnaire. C'est drôle, c'est là qu'on voit qu'ils foutent rien.
Ah ouais?
Oui, les fonctionnaires, mais c'est rigolo. Il y a, la plupart, il faut les virer. Par exemple, dans mon bureau, il y avait 4 personnes et il y avait du boulot pour une personne. Laquelle qui travaillait, à votre avis? Hein? Je pense que quand on dit qu'il faut dégraisser les fonctionnaires, c'est même plus la peine. Il faut en virer la moitié.
Alors pourquoi Nicolas Sarkozy, en 5 ans, n'a pas réussi à le faire, ça?
Je crois qu'il était très occupé avec l'Europe. Et je crois que c'est pour ça qu'il a peut-être un peu... Il nous a un peu mis sur la touche, mais je crois que c'était très important qu'il sauve la France sur le plan européen. Et je pense que là, il va pouvoir s'occuper de la France.
Vous avez pris votre retraite à quel âge?
Je ne peux pas le dire parce que...
Quoi, c'était tôt?
Je suis parti avant. Je suis parti avant, ouais. Je suis parti avant 60 ans parce que je ne pouvais plus voir les fonctionnaires en peinture. J'en faisais une dépression.
Et une dernière question, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous me parliez de François Hollande.
Flamby au frigo, on dit.
Imaginons qu'il soit le prochain président de la République le 6 mai.
Je n'allume plus ma télévision et j'écoute plus la radio.
Ah oui,
je
carrément.
Plus... Ah non, moi, rien que son visage, j'ai envie de vomir. Si on gagne, je vais boire un coup, forcément. Mais si c'est l'autre, ah oui, oh là, je me suicide peut-être.
Carrément.
Ah bah ouais. Attends, on va pas vivre avec la gauche communiste en France. Il n'y a plus de communistes dans le monde, ou presque. On est en train d'éradiquer le problème. Et puis, vous ne voudriez pas quand même qu'en France, il y ait des communistes? Bon, vous êtes satisfait? Vous allez faire des coupures? Ah oui, vous allez couper, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que... Hein? Faut pas dire.
Je suis le professeur Debré, député du 16e. Et là, ce sont des résultats qui sont intéressants, parce que tout est ouvert. Nous avons un vote protestataire extrêmement fort à droite, un vote protestataire à gauche aussi. Et maintenant, on a soldé, il faut bien le comprendre, on a soldé le bilan des 5 dernières années, on l'a soldé. Maintenant, c'est l'avenir. Qui est le plus apte à gagner? Qui a la carrure d'un président de la République? C'est ce qu'on va demander aux Français.
Là, le premier tour, pour l'instant, le choix se porte plus vers François Hollande.
Oui, à 2 points encore, 1,5, 2 points, voilà. Mais attendez, le vote protestataire, c'est autre chose. Hein. C'est 20% le vote protestataire, plus 11%. Bon, si vous aviez Mélenchon qui était à 30%, ça aurait été quand même très négatif. Mais là, le Front National, ça vote contestataire et protestataire. Je suis très content, très fier.
Vous êtes très fier?
Très fier parce qu'on a là vraiment un enjeu formidable et c'est un enjeu comme on n'a jamais eu. Et je crois que Nicolas peut gagner.
Alors là, il y a Jean-François Copé qui va arriver.
J'adore Copé.
Martine, vous êtes invitée ici.
Oui.
Vous faites quoi?
Je participe régulièrement aux campagnes présidentielles. Je suis retraitée.
Vous faisiez quoi?
J'étais professeure d'anglais.
Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir pour que Nicolas Sarkozy puisse passer au deuxième tour?
Et il aura du mal. Je soutiendrai jusqu'au bout, ça me fait une peine folle, voilà.
Martine, vous avez les larmes aux yeux.
Oui, ben ça me fait de la peine, forcément. Je l'aime beaucoup. Quelqu'un qui a un cœur fou, qui se donne un mal incroyable. J'ai même peur pour sa santé. Et s'il est battu, je serais très contente qu'il prenne enfin des vacances et que les gens lui laissent un petit peu la paix et que les gens arrêtent de lui faire du mal parce que des calomnies incessantes depuis 5 ans, c'est beaucoup tout de même.
À chaque fois, on parle des affaires en plus du financement de... La campagne 2007, alors ça, il ne faudrait pas en parler.
Moi, j'en fais partie. Je lui ai donné de l'argent, mais pas beaucoup, à ma mesure.
Pas comme Madame Bettencourt.
Ah, ben, j'ai pas les mêmes moyens, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. Franchement.
Vous avez peur de quoi, justement?
Je ne supporte pas les têtes que j'ai vues là, tout à l'heure.
Sur les écrans, c'était qui ?
Martine Aubry. Alors ça, pour moi, c'est le restant de la colère de Dieu. Je ne peux pas supporter cette femme.
Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait ?
Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Alors je sais qu'à partir de 6, je ne vais plus allumer la télévision pendant 5 ans. Voilà. J'avais fait ça du temps de Mitterrand. Et je ne regardais jamais les informations. Je ne m'intéressais à rien qu'au moment des élections. Moi, je ne voulais pas voir ces têtes-là. C'est viscéral. Je ne peux pas les supporter.
Mais ils vous ont rien fait, pourtant ? Personnellement, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?
Moi, j'étais dans l'enseignement et je peux vous dire que j'ai vu les têtes de cons. Et je me suis rendu compte de la haine et de la méchanceté des gens dans l'enseignement qui étaient tous de gauche. Alors depuis ce moment-là, ils m'insupportent. Et vraiment, depuis, et puis j'ai été élevée à droite. C'est un petit peu primaire. C'est primaire, mais c'est comme ça. Je les aime pas.
Alors il y a les chiffres, il y a les discours, il y a les analyses, il y a les experts. Il manque simplement la vie. La vie des militants, la vie de ceux qui viennent là avec leur conviction, leur cœur, leur pensée, leur réflexion, leur engagement, leur parti pris. Et donc hier, nous étions à la mutualité avec l'UMP.
Ce qui marche très bien, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le gros succès des élections.
Vous êtes en train de me montrer un bracelet où il y a écrit Sarkozy dessus.
Oui, parce que Sarkozy, je l'aime et je suis convaincue qu'il va gagner.
Vous êtes Véronique ?
Moi, je suis Véronique de Villèle.
Vous faisiez de la gym à la télé ?
France 2 pendant des années, avec une grosse émission qui s'appelait Gym Tonic.
Et tout
marche très bien.
Comme quoi. Voilà. Là, j'ai l'impression quand même toutes les troupes sont venues un peu en force. Hein. Monsieur Barbelivien, vous.
Il faut le soutenir jusqu'au bout. C'est quelqu'un d'exceptionnellement intelligent, de vrai, de sincère, d'intelligent. Qui est plus fort que lui en politique ? Il a une expérience de malade. Il est très intelligent, il a beaucoup d'humour et je pense qu'il va gagner.
Il vous a fait des blagues déjà ?
Non, mais je l'ai vu dans des conversations, je l'ai vu dans des interviews. Brillantissime, mais brillant. Personne ne lui arrive à la cheville. Personne. C'est un homme qui a une expérience exceptionnelle. Lui, au moins, il parle et il fait. Action, réaction. Il a géré une crise que personne n'aurait été capable de faire. Personne. Personne ne pouvait faire ce qu'il a fait. Alors, évidemment, il a fait beaucoup de réformes quand même. Il y en a certaines qu'il n'a pas fait. Il va les faire maintenant.
Et alors, justement, vous allez m'aider parce si je fais de l'anti-sarkozisme primaire, je vais parler des affaires. Voilà, l'affaire Bettencourt, l'affaire Karachi.
Oui, parlez-moi aussi de sa Rolex et parlez-moi du crayon et tout ça, c'est débile. Franchement, ils ont tous des affaires. Pourquoi est-ce qu'on parle des affaires de M. Sarkozy et qu'on ne parle pas de celles des autres ? Je suis très internaute, je suis Facebook, je tweet. Eh bien, les affaires, il y en a beaucoup dont la presse ne parle pas. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait un petit dossier d'ailleurs, si vous les voulez, je vous les donnerai.
Il en a beaucoup quand même.
Mais qu'est-ce qu'il a comme affaire ? Il faut arrêter.
Bon, on peut les faire à deux, puisque vous tweetez, vous faites Facebook, il y a Karachi. Bettencourt.
Il faut être positif. J'aime Nicolas Sarkozy, j'aime sa femme, c'est un père de famille remarquable.
Vous pouvez pas le dire avec un peu plus d'entrain ?
Un peu plus de ?
De conviction.
Je ne trouve pas que j'en ai beaucoup de conviction dans ma voix, parce que c'est quand même ce qui me caractérise. J'ai une énergie de malade, non ? Vous ne trouvez pas ? J'aime Nicolas Sarkozy, j'aime énormément
sa femme. Toc, allez-y.
J'aime Nicolas Sarkozy, j'aime Carla Bruni, c'est un bon père de famille, c'est un type exceptionnel. Je les aime, il n'y a pas quand on aime quelqu'un, on les aime. Voilà, je les aime, c'est surtout ça.
Là, c'était mieux.
Ah, merci, au revoir.
Monsieur, excusez-moi, bonsoir. Alors, le discours vient de se finir.
Oui.
Comment vous l'avez trouvé, Nicolas Sarkozy ?
Courageux, comme d'habitude.
Courageux.
Courageux, fort. Il va gagner.
Alors aujourd'hui, il est deuxième quand même.
Il n'est pas deuxième.
Bon, expliquez-moi alors.
Parce que les Français vont réagir face à cette larve qui est Hollande. Ils ne peuvent pas comprendre.
Cette larve ?
C'est une larve, oui.
Une larve ?
Ah oui, oui. Un mollusque, une limace, une méduse. Ce que je constate, c'est que Marine Le Pen, elle est très haute, Mélenchon est très faible, et je trouve que vis-à-vis de Mélenchon, c'est une très bonne chose. Parce que ce gars-là, il fallait vraiment qu'il ferme sa grande gueule.
Ah bon ?
Un gars comme Mélenchon allait détruire la France. On ne détruit pas la France avec le communisme. Le communisme ne passera pas. Face à ça, effectivement, je préfère voir une Marine Le Pen faire effondrer un Mélenchon. Là, je suis tout à fait satisfait dans ce sens-là.
Je ne vous ai pas demandé votre prénom.
Mon prénom, Patrick.
Patrick, vous arborez d'ailleurs une très jolie chemise bleu-blanc-rouge
à
rayures.
Oui, c'est un pur hasard.
Très belle chemise bleu-blanc-rouge, Patrick. Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis à la tête d'un cabinet d'architectes. Et je sais ce que c'est que de vraiment bosser comme un malade. On n'est pas à 35 heures dans ce métier comme dans bien d'autres. Et quand je vois que les socialistes nous ont mis 35 heures sur le dos, quand je vois que Aubry va peut-être être Premier ministre si on perd, c'est catastrophique. On va être obligé de supporter et on prendra encore plus d'argent. Il l'a annoncé, Hollande, hein, on va faire payer ceux qui travaillent. Il l'a carrément affiché. Alors, c'est totalement communiste.
Ah, Hollande est communiste.
Mais bien sûr, mais attendez, il a fait appel à Mélenchon.
Alors, est-ce que l'UMP va faire appel à l'électorat FN ?
Il faut aller chercher les voix du Front National, comme les voix de Bérou, comme peut-être certaines voix de Hollande, pourquoi pas ? Il s'agit d'un rassemblement. Eux, ils ont tous les droits. Ils ont le droit de s'associer à des communistes qui ont du sang sur les mains. Mais nous, il faudrait pas qu'on aille chercher Le Pen.
Du sang sur les mains ?
Mais bien sûr, le communiste, c'est du sang sur les mains.
Mais les communistes français, par exemple Jean-Luc Mélenchon, il a pas de sang sur les mains.
Mais ça, c'est sa réflexion. Il participe au communisme. Les communistes qui sont des assassins. Elle me fait peur, moi, cette idéologie-là. Moi, j'ai eu Mélenchon, quand je l'entends parler, j'ai peur. Il me fait peur, cet homme.
Les idées de Marine Le Pen, elles vous font moins peur ?
C'est très simple, et puis alors sans complexe. J'adhère totalement aux idées de Marine Le Pen, mais je ne voterai pas pour Marine Le Pen pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle veut remettre les frontières de la France en Europe, et d'autre part, elle veut revenir au franc. Sur le reste, elle est entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Notamment les immigrés et tout le reste. Ça, je suis entièrement d'accord. On le vit. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Je suis un homme de terrain. Hein. Je travaille avec tous ces gens-là. Je sais ce que ça vaut. Je sais comment ça se passe. Et eux-mêmes en souffrent, les immigrés. Si on les régularise, il faut payer des charges, ouais. Il faut payer la sécu, il faut tout leur donner. Et ça, la France n'a pas les moyens actuellement.
Donc il faut les laisser dans cette situation-là ?
Non, mais attendez, d'abord ils sont illégaux, donc il faudrait qu'ils repartent chez eux. Voilà.
Bah, bonne soirée.
Mais oui, vous aussi.
Peut-être aussi, mais on se recroisera peut-être.
J'ai la trouille.
Vous avez la trouille ?
Oui, de perdre.
Vous avez la trouille de perdre.
Oui, mais ça va être très dur.
Voilà, quelques propos, quelques images. Donc de ces moments où la politique est à vif, où la politique est à chaud, il y a la distance de la réflexion, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour la réserve, et puis il y a des jours comme hier soir finalement, tout ça était limité à quelques heures, où les choses sont exacerbées et quelque chose sort, qui bien sûr est excessif, bien sûr est polémique, mais c'est la vie après tout, c'est une des formes que la politique, que le parti pris politique revêt.
Je peux vous demander votre prénom ?
Jean-François.
Jean-François, et ça fait longtemps que vous êtes sympathisant du Front National, vous ?
Oui, ça fait un certain temps que je vote Front National, parce que je suis en train de penser que c'est le parti le plus démocratique. Mais avant, j'ai voté à gauche, à l'extrême gauche.
Et alors ce soir, quel est votre sentiment ? Vous êtes heureux ? Vous êtes un peu déçu finalement que Marine Le Pen ne soit pas
au second
tour ?
J'aurais bien aimé que Marine Le Pen soit présente au second tour. Hélas, je crois que ça aurait été vraiment très difficile, puisque je pense qu'elle n'a pas fait un programme assez ambitieux. Mais bon, elle a fait ce qu'elle a pu, c'est pas mal déjà. Je pense que c'est déjà très bien. Ça montre quelque chose. Ça montre qu'il y a un vrai problème sur l'immigration, sur la sortie de l'Europe. Je pense que les Français en ont marre. C'est vrai qu'on arrive à la fin d'un cycle. On a quelque part épuisé les gens du PS et les gens de l'UMP. On a vu qu'ils étaient lamentables, qu'ils étaient très mauvais, enfin, que l'Europe... C'est surtout l'Europe, je pense que c'était ça le point fondamental, c'est l'Europe et l'immigration. C'est la seule candidate qui ait mis le doigt sur ces points fondamentaux.
Ce soir, Nicolas Sarkozy a été plus hué ici que François Hollande.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais en train de dire à mes amis que moi, j'allais voter François Hollande, à moins qu'il fasse des propositions délirantes sur la régularisation des immigrés ou sur le droit de vote des étrangers, parce que je trouve ça complètement stupide. Mais cela dit, je pense que se débarrasser de Sarkozy, ce serait une très bonne chose.
Donc vous allez voter Hollande.
Voilà. Pour moi, la priorité, c'est de virer Sarkozy.
Est-ce qu'on est content ? Ah oui, on est très content. On est très content, oui, absolument.
Écoutez, moi je suis une pied noire rapatriée d'Algérie, donc je vote depuis le début pour Jean-Marie Le Pen, parce que par fidélité pour l'Algérie française.
Vous pensez que ça peut aller jusqu'où? Qu'elle peut aller jusqu'où alors justement Marine Le Pen?
J'espère qu'elle arrivera jusqu'au poste de président la prochaine fois.
C'est-à-dire elle grignote du terrain, point par point elle arrivera. Parce que les Français ont la tête dure, mais ils finiront pas comprendre qu'on est en train de nous bousiller notre pays. Parce que la France était un grand pays, immense. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Parce que, comme je disais à je sais plus qui, la France, c'est pas une question de superficie. Parce que, regardez, la Suisse est un tout petit pays, mais qui est immense sur, économiquement, moralement, culturellement, etc. C'est pas une question de superficie. La France, pourquoi tout le monde veut venir en France? Il n'y a pas de mystère, c'est parce que c'est un grand pays. Bon, alors, ils viennent en France, mais il faut qu'ils le respectent, toutes ces valeurs, tous les gens qui y viennent. On ne peut pas abaisser la France, c'est-à-dire saper la France, leur donner une France par le bas, mais par le haut. Voilà.
Merci beaucoup, mesdames. Merci.
Voilà, vous avez compris, on est à l'équinoxe, au QG du Front National, hier, un certain dimanche de 2012.
Je peux vous demander votre prénom ?
Oui, Gaëtan.
Gaëtan.
Militant depuis 6 mois bientôt.
6 mois. Je peux vous demander votre âge, Gaëtan ?
18 ans.
18 ans. Donc c'était votre premier vote ?
C'est ça, c'est la première fois que je votais, oui.
C'est votre famille est aussi au Front National ou c'est vous ?
Non, c'est purement personnel. Moi, ma famille est plutôt à gauche. Mon entourage n'était pas forcément très inscrit politiquement. C'est vraiment un choix personnel. Donc, pour moi, Marine est la seule à proposer de réelles solutions aux problèmes qu'elle est la seule à montrer. Donc du coup, j'organisais des tractages, des collages ou encore des boitages dans tout Paris et moi principalement dans les universités et écoles parisiennes, car c'est un endroit où malheureusement le FNJ n'a pas pu venir depuis déjà 15 ans je crois. Et donc on avait vraiment besoin d'y retourner, d'aller voir les jeunes.
Alors comment vous voyez la suite? Vous projetez déjà sur les législatives, sur l'après? Et vous, à titre personnel, le second tour, qu'est-ce que vous allez faire ?
Pour ma part, je pense déjà ne voter pour aucun des candidats. J'irai voter blanc, car voter est un devoir et il reste important au nom d'un citoyen. Mais j'irai pas pour voter ni pour Hollande ni pour Nicolas Sarkozy, pour la simple raison que tous les deux soutiennent absolument la même chose, qui sont la soumission d'un peuple entier au nom de grands groupes, au nom de Bruxelles, au nom des banques, etc. Ils sont tous les deux du coup pour une immigration massive, ils sont tous les deux pour cette soumission du peuple dont je parlais à l'instant, cette insécurité grandissante, ce chômage grandissant. Donc moi je ne vois pas quel serait mon intérêt à accorder ma voix à l'un de ces deux candidats alors qu'ils ne soutiennent aucune de mes idées.
Alors les militants du Front National à l'équinoxe regardent les écrans de télévision à chaque fois que Hollande apparaît, François Hollande apparaît, c'est des hurlements. Quand Jean-Luc Mélenchon apparaît, c'est des hurlements, des grondements. Et à Stalingrad, devant la rotonde, entre Jaurès et Stalingrad, ben c'est un peu la même chose, sauf que c'est le contraire. Lorsque sur les écrans apparaissent Sarkozy ou ses porte-paroles, ou alors encore plus détesté, Jean-Marie Le Pen ou sa fille, c'est les mêmes hurlements. On est donc là. On arrive là, maintenant, à Stalingrad, où la foule est massée. Podium, le plan d'eau de la Villette, vous connaissez peut-être cet endroit de Paris. Une foule nombreuse est là, les drapeaux rouges, une foule serrée qui commence à apprendre les résultats, à connaître les résultats, non pas des deux premiers, qui sont à peu près sans surprise, mais le troisième et le quatrième candidat, c'est-à-dire le Front National, qui soudain est donné à 18, 19, 20% selon certaines informations qui circulent, et le Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon qui est donné à 10, 11, 12, enfin on ne sait pas très bien à ce moment-là, et tout d'un coup cette foule enthousiaste est absolument consterné, une vague de déception traverse la foule.
Et, alors vous êtes déçu?
Ah, terriblement déçu.
Ouais.
C'est, je me demande si je ne suis pas plus déçu par la montée écrasante, hallucinante de l'extrême droite, du fascisme, de la haine en France que... Bon, par un score assez faible de Mélenchon, il est bien plus bas que ce qu'on attendait, mais c'est surtout l'effarement face à ce que tous mes concitoyens ont choisi pour cette élection. J'avais presque les larmes aux yeux tout à l'heure. C'était hallucinant, vraiment hallucinant. Ouais. Ma copine, pareil. Et mes colocataires qui n'ont pas voté, eux, parce qu'ils sont pas français, et ben ils sont très déçus aussi. Donc voilà.
Pur, c'est celui de Le Pen, il faut se comprendre.
Comment ?
Le sang impur, c'est celui de Le Pen.
Exactement, exactement, ouais.
On annonce Pierre Laurent sur France 2, à vos écrans. La seule force nouvelle qui soit en position.
Vous êtes déçu ?
De quoi ?
Est-ce que vous êtes déçu ?
De quoi ? Des scores bas que nous avons eus ? Oui, je suis très déçu et je... Parce que c'est un parti qui véhicule des idées racistes. Et avec une histoire comme là, la France, d'occupation, de Pétain. Moi, je suis franco-argentine. Et je suis déçue aussi de peu des gens qui se mobilisent pour voter. J'ai fait du porte-à-porte. Je suis militante du Front de Gauche. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'enjeu qui représente voter, l'importance du vote. Parce que mon père, il a dû se battre pour
voter. Mais les gens ont voté, là. Oui, mais les gens ont voté. Oui, mais il y a eu beaucoup.
Oui, mais les pauvres, ils votent pas assez.
Ah oui. Vive la gauche.
Oui, mais la gauche, elle n'a pas gagné, là.
Si, il va gagner.
Ah bon, d'accord.
Gagner.
Oui, la gauche, elle va gagner avec Hollande.
Allez, gagner.
Et nous, on sera derrière pour...
Donc, on a confiance. Vous avez confiance. Vous
n'êtes pas déçu. Confiance totale.
Ah, d'accord.
Ah non, elle n'est pas déçue.
Confiance totale. Depuis longtemps, on a prié pour la gauche qui va être montée. Il va arranger la France... Bien comme il faut.
D'accord, avec la prière.
Ah, toujours, la prière, c'est toujours la prière.
Bien
la
sûr.
Prière, toujours. Je suis l'Angéa.
Comment vous vous sentez ce soir, monsieur?
Plutôt bien.
Plutôt bien.
Oui, plutôt bien. Parce que je vois que Sarkozy, le président Sarkozy, n'est pas en très bonne situation. Plutôt bien parce que le Front de Gauche a fait un très beau travail et même si le résultat n'est pas à la hauteur, c'est vraiment une belle avancée. Plutôt bien parce que, d'après ce que j'ai entendu, les voix de Le Pen ne se reporteront pas à 100% sur Sarkozy. Plutôt bien parce que c'est un nouveau démarrage. Voilà.
Vous pensez que là on rentre un peu dans l'histoire en fait, que c'est une élection qui va changer la donne pour la suite?
Il y a des chances pour que ce soit un nouveau démarrage. J'ai constaté qu'il y avait tellement de gens dans les meetings de Mélenchon. J'ai jamais vu ça jusqu'à présent et bon, depuis très longtemps je suis dans la partie militante. J'ai jamais vu autant de monde dans tous ces meetings. Donc il y a vraiment quelque chose qui se construit, voilà. Alors, je pense que ça continuera, oui. C'est un démarrage.
Comment vous vous appelez ?
Patrick Boisson, Paris 15e.
Et vous travaillez où ? Dans quelle entreprise ?
Alors, j'ai travaillé longtemps dans une grande banque célèbre qui s'appelle le Crédit Lyonnais. J'ai arrêté depuis 4 ans. Et je continue dans une association de conseil aux salariés. Depuis, je suis à la retraite. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut changer avec 12% là, pour Jean-Luc Mélenchon, avec une gauche éventuellement qui passerait le second tour des présidentielles ? Qu'est-ce qui, pour vous, devrait changer en premier ? peu m'importe ce que ça me coûtera.
Certainement le changement des institutions actuelles qui sont malgré tout très antidémocratiques. Et c'est vrai qu'une nouvelle constitution s'impose. Voilà, ça, ce serait urgent. Je ne sais pas si le président Hollande, enfin le futur président de gauche, ira vers cette orientation, mais je pense que c'est absolument indispensable. Voilà.
Et puis, il y a une espèce d'engouement des gens, et j'ai jamais vu des gens aussi intéressés dans les meetings, attentifs, et qui mélangeaient autant de générations de jeunes, de moins jeunes, de vieux, de très vieux. Enfin,
parce que c'est vrai, ce soir, on va le rappeler, là, quand même, il y a une énorme majorité de jeunes. Moi, je trouve ça impressionnant. Cette place est noire de monde. Et on croise énormément de jeunes, effectivement, beaucoup de générations réunies, mais beaucoup de jeunes.
Et moi, ça me réconforte beaucoup, parce que quand vous militez dans un syndicat, dans une association, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de jeunes, et puis tout d'un coup, on voit là partout, c'est très bien, donc il y a quelque chose qui change fondamentalement, je crois que c'est ça qui va être un tournant, là. Alors après, ça dépendra de nous tous, il faut écrire l'histoire, chacun de nous l'écrira, sauf si on ne prend pas son stylo ou sa voix, sauf si on est... les voix qui ne parlent pas,
les Français invisibles.
Les Français invisibles, les majorités silencieuses. Voilà, il faut parler, il faut prendre son crayon, il faut y aller. Et puis il faut dire ce qu'on pense et puis créer les choses ensemble.
L'impression de vivre des moments d'histoire, même si c'est la déception. Donc hier, place Stalingrad à Paris, les militants déçus, aussi tous ceux qui étaient là hier soir, curieux, et puis les marchands de merguez qui sont repartis avec leurs merguez et leurs brochettes. Alors dans la tente derrière le podium, Jean-Luc Mélenchon était là, il recevait toute une suite de télévisions du monde entier et nous a accordé cet entretien. Jean-Luc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était « Que se vayan todos ».
Claro.
Est-ce qu'ils sont partis alors ?
Non, j'espérais que le travail aille plus vite, mais comme disait Léon Trotsky, histoire que tu es lente et cruelle. Voilà, c'est comme ça. Alors, ce soir, il y a moitié de raison d'être fou de joie et moitié de raison d'être fou de peine. Fou de joie parce que notre courant politique connaît une renaissance, puis on se présente comme une force politique nouvelle. Vous avez vu, là, sur la place Stalingrad, le rajeunissement, si vous avez fait les deux, vous avez pu vous rendre compte de l'évolution. Donc moi, j'aurais été un passeur utile, j'espère. En tout cas, au moins que j'aurais fait ça bien, passer le flambeau. Et ceux-là, ils changeront pas d'avis maintenant. Ça y est, ils ont pris le virus. Donc ça, c'est des raisons d'être heureux, parce qu'on a un bel outil, on a un front de gauche, et puis il est à 12%. Donc voilà, bon ça, c'est pas rien d'avoir ça dans les mains. D'ailleurs, c'est eux qui font la décision le 6 mai. Il va falloir qu'ils réfléchissent, hein, parce qu'ils vont devoir assumer la responsabilité comme des grands. Ça, c'est le côté bonheur. Puis le côté tristesse infinie, c'est de voir mon beau pays défiguré, je le dis comme je le sens, par 20% de Front National. Ça veut dire que la lutte, comme on a eu raison, putain, de leur rentrer dedans. Mais comme on a eu raison. Mais si on n'avait rien fait, on en serait où ce soir ? Où on en serait ? Ils n'ont rien foutu, les autres. Ils les ont regardés, ils étaient là, ils lui ciraient les pompes. Et à la fin, quand ils ont cru qu'on allait être trop fort à leurs yeux, hein, ils ont renoué avec les vieilles habitudes de leur père. Hein, plutôt Hitler que le Front Populaire, plutôt Le Pen que Mélenchon. Bon, c'est cette longue histoire qui continue à travailler la France. Hein, et nous, ben voilà, dans cette bataille, il va falloir qu'on continue à gagner nos galons devant le peuple tout entier. Donc là, on a un premier rendez-vous, là, le 6 mai. Il ne faut pas tortiller, il ne faut pas traîner les pieds. Toute l'Europe attend qu'on plie M. Sarkozy. C'est la lutte. C'est la lutte à mort entre les mercosistes et nous. Hein, c'est
mais
ça la lutte.
Jean-Luc, personne n'a vu venir ces 20% pour le Front National. Mais combien de centaines de sondages qui se sont tous plantés, qui se sont tous vautrés, ils ne l'ont pas vu venir, une fois de plus. C'est-à-dire que toute cette campagne, qu'on le veuille ou non, a été instrumentalisée, fabriquée par les sondages, même ceux qui, comme vous, ils disaient, nous, on ne mange pas de ce pain-là, mais quand même, vous avez été obligé de parler par rapport à ça, et c'est quand même une manipulation monstrueuse.
Mais c'est toute la... Plus le temps avance, plus les enjeux de la lutte se durcissent, plus la mascarade apparaît à nu. Bon, et voilà, il faut un certain temps pour que tout le monde comprenne que les instituts de sondage ne sont rien d'autre qu'un rouage du système destiné à le reproduire, à l'entretenir, voilà. De la même manière que toute une presse n'est qu'un rouage du système et toute une partie de l'appareil médiatique ne sert qu'à ça. Comment, au moment où moi j'étais en train de faire un effort avec le Front de Gauche maximum pour affronter le Front National, le Nouvel Observateur préférait me tirer dessus, me traîner dans la boue sur des pages et des pages, tout plutôt que nous. C'était ça leur truc. Et l'enjeu de la lutte, c'est la conscience. C'est rien d'autre que ça. C'est est-ce que les idées s'éclaircissent dans les têtes.
Jean-Luc, est-ce que vous avez réussi à mordre sur cet électorat du Front National, sur cet électorat populaire? Où est-ce que vous en êtes avec la reconquête de la classe
Mais
populaire?
Le problème n'est pas de mordre. Il faut bien qu'on se comprenne. Il y a toujours eu un secteur de la classe ouvrière et du peuple profond qui était de droite. De droite. C'est cette droite-là qui s'est extrémisée. Donc nous, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? C'est à reprendre pied politiquement dans les milieux populaires et ouvriers. Hein, on l'a fait. Moi, je peux me regarder avec mes copains dans la glace. Il y en a un paquet, non, ils peuvent pas ce soir. Parce que ce résultat, c'est le résultat de leur sale besogne.
Est-ce que ce soir, avec ce résultat, avec ces 20% au FN, est-ce que c'est plié, c'est pas plié du tout?
Non, cette élection n'est pas du tout réglée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai été aussi dur pour dire maintenant, il ne faut pas traîner les pieds. Hein, il ne faut pas commencer à faire comme si c'était une petite affaire entre nous, une espèce de congrès de la gauche où on ne serait pas content parce que Hollande serait devant nous. Hein. On a une tâche politique à accomplir devant toute l'Europe et devant ce pays. Parce que si on bat M. Sarkozy, clairement c'est un encouragement aux luttes sociales.
Mais ce n'est pas gagné.
Ah ben, c'est clair que non. Ça, c'est clair que non. Et qu'il va falloir se mobiliser, se battre et refaire d'abord en tout un travail. Parce que vous savez, il y a des blessures là, hein, à la sortie. Hein. Les 15 derniers jours de harcèlement contre moi, moi comme homme politique, comme bonhomme, j'encaisse. Hein, mais il y en a des tas à qui ça n'a pas plu du tout, hein, que je sois traité comme ça, parce qu'ils se reconnaissent en moi.
Là, la Légion d'honneur de Buisson et toutes ces histoires-là, c'est ça
Oui, oui, la Légion d'honneur de Buisson, bah, c'est terrifiant une histoire pareille, parce que si on ressort toutes les Légions d'honneur auxquelles j'ai participé depuis que je suis élu, mais ma parole, c'est ingérable, d'ailleurs, il n'y a plus aucun élu qui peut aller à aucun truc. Non, mais il y a eu pire que ça. Après, il y a eu un truc, c'était le déjeuner secret. Alors, tu parles, j'étais à l'Institut du Monde Arabe, comme lieu secret, on fait mieux dans Paris, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent, ils ne savent pas. Après, il y a eu une photo qui est quand même parue à 4 millions d'exemplaires dans Métro, qui dit les photos embarrassantes, on me voit à côté de Bachar al-Assad. Et il n'est pas dit ce que je fais là. J'étais ministre de Lionel Jospin, il n'était pas venu me rendre visite à moi, Bachar al-Assad. Il était venu voir Chirac et Jospin, pas moi. Et il y a un tour de rôle dans le tableau, donc je l'ai raccompagné. C'était mon tour, voilà. Bon, mais tu discutes pas quand c'est comme ça. Ça fait partie des obligations de la France de recevoir ses hôtes. D'accord ? Donc ils ont sorti ça sans dire pourquoi j'étais là, comme si j'étais là par amitié, ou même peut-être à Damas, qui sait. Bon, c'est inouui d'avoir fait ça. Alors que c'est le Front National. Oui, c'est toute cette bande, c'est toujours les mêmes. Oui, non, Match, ils ont encore sorti autre chose. Non, mais c'était. Ça, tous les jours, il y a un chef d'orchestre. Tous les jours, il y avait un truc. Alors lundi, c'était Buisson. Mardi, c'était le déjeuner secret. Mercredi, c'était Bachar al-Assad. Jeudi, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et bon, ça a été tous les jours. Hein, si c'était par hasard, on aurait dû avoir un jour avec deux et un jour avec rien. Non, c'était tous les jours, il y en avait un, à la même heure. Aux alentours de 8h du matin, ça démarrait. Voilà. Donc il y a eu, bon, je pense que c'est l'extrême droite qui a lancé ses campagnes avec quelques socialistes qui ont dû aussi donner un coup de main en disant, ben voilà, ça permet de disqualifier Jean-Luc. Bon, moi je suis, comment dire, je ne m'attendais pas à ça, je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne m'attendais pas à une telle charge, aussi longue, aussi lourde, aussi constante. Il y a des jours où, quelle que soit l'épaisseur du cuir, Il y a des jours où on est très triste. La flèche passe sous la peau. Et elle atteint les nerfs. C'est là que vous avez besoin des copains qui vous disent « Bon, laisse tomber, c'est pas important. » Et puis vous vous dites « Mais si, c'est important. » Vous pensez à une personne quelque part qui est un ami, qui se dit « Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Quelle est cette histoire ?» Et il peut être déçu, voilà. Bon, enfin, on a survécu à tout ça, on survivra au reste. Je suis sûr que nous avons les clés du futur.
Résistance, 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 résistance.
Bonjour Monsieur Mermet.
Bonjour.
Faut continuer surtout, hein, parce que là
alors
c'est catastrophique.
Êtes déçu
là. Ah bah putain, mais ouais. À hurler, à tout casser quoi.
Mais
là on a moins que dans les sondages qui étaient déjà truqués. Enfin, c'est bizarre quand même.
Absolument rien lâché.
Bah oui, bah.
Le premier mai prochain.
Moi je suis écœurée, vraiment écœurée, ça fait non là c'est pas possible. Faut continuer.
Et encore bien longtemps après.
Mais il y a de la triche là.
On lâche rien.
HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien,
le 6 mai prochain.
Et je suis chauffeur de taxi et j'ai pris énormément de monde ces dernières semaines et tout le monde était pour Mélenchon. Donc il a créé une dynamique. C'est la victoire du front de gauche.
Et alors qu'est-ce qu'ils vous disent les gens que vous prenez dans votre taxi?
Ils veulent dégager Sarkozy déjà. Et ils votent tous à gauche. Quoi. Maintenant, le front de gauche, pour eux, il y a beaucoup d'ignorants. Hein. Ils croient qu'on va revenir au communisme d'époque, alors que c'est un communisme moderne quand même.
Comment vous vous appelez?
Santiago. Santiago.
Vous avez quel âge, Santiago?
J'ai 35 ans. Et je suis, pour l'anecdote, patron anticapitaliste.
On s'est senti bien seul pendant cette campagne contre le Front National et on voit le résultat là ce soir. Parce que là, ce qui me déçoit vraiment, c'est quand j'ai vu les images du siège du Parti Socialiste. J'ai rien contre les personnes du Parti Socialiste, mais je trouve que quand on est de gauche aujourd'hui, le minimum de décence, c'est de ne pas faire la fête, d'être combatif, d'être conscient du travail qui nous reste. Parce que là, je sais qu'ils sabrent le champagne là-bas et c'est pas facile à voir quoi.
Comment tu t'appelles?
Taïeb.
Et tu fais quoi dans la vie, Taïeb?
Je suis étudiant en sciences politiques à Paris et je suis assistant d'éducation dans un lycée. J'ai 24 ans. Je suis militant du parti de gauche.
Depuis combien de temps?
Depuis 2008. Et j'étais militant socialiste avant. Et j'ai quitté le parti socialiste justement pour ce que je vois ce soir. Il y a un décalage vraiment à gauche aujourd'hui.
C'est quoi le sentiment de gueule de bois ce soir?
Non, c'est vraiment, vraiment très conscient du travail qui reste à accomplir. On mettra un bulletin Hollande dans l'urne, hein, au deuxième tour. Mais qu'ils ne se me prennent pas, quoi. C'est pas un bulletin d'adhésion à Hollande, c'est vraiment pour montrer qu'on a ras-le-bol de la droite et de l'extrême droite, puisque je mets Sarkozy et Le Pen dans le même sac, là. D'ailleurs, on voit sa réaction, là. Et sa seule réaction, c'est dire qu'il comprend les électeurs du Front National.
T'as déjà rencontré un électeur du Front National?
Oui, bien sûr. Ouais, moi, je viens d'un département rural, je suis à Paris depuis une année. J'ai pas envie de prendre de haut ces gens-là, j'ai pas envie d'être méprisant, mais c'est surtout de l'ignorance. Un vote Front National aujourd'hui, c'est un vote d'ignorance. C'est un échec de notre société, un seul électeur du Front National. Parce que si la France va mal, c'est la faute au voisin, c'est la faute au dernier arrivé. Mais on voit bien que ce qui les motive le plus, c'est cette peur. C'est même pas cette haine, c'est cette peur qui se transforme en un bulletin Front National. Il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot pour leur expliquer, faut être patient, faut prendre le temps. On a cru que nos explications étaient suffisantes, mais elles ne sont pas suffisantes parce qu'il faut un front uni contre le Front National, justement. Et le 1er mai, on va le montrer, ça.
Donc là, tu vas faire quoi, là? Parce que la fête est finie ici, si on peut appeler ça une fête. Tout le monde est en train de remballer la sono, il n'y a plus personne sur la place de Stalingrad. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, là?
Ce soir, je vais imprimer 3000 tracts à distribuer dans l'Essonne. Je vais passer une nuit blanche et aller livrer des copains qui m'attendent au RER, là où je milite. Pour que demain, on explique aux gens que le combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Quoi. On va aller sur le terrain, on va aller là où ça a voté Front National. Moi, depuis Tuiné, j'entends parler de Le Pen. Apparemment, on va en entendre parler encore quelques temps, mais on va faire en sorte que ça dure pas trop. Quoi. C'est bizarre, c'est très paradoxal, mais ce soir, je suis gonflé à bloc. Non, j'estime ne pas avoir le choix. Quoi. Pas laisser passer ça.
Bon, ben voilà, ici, place Stalingrad. Dans le 19e arrondissement de Paris, tout au nord de Paris, la fête est finie. Je sais pas si on peut parler d'une fête, mais on remballe. Tout le monde rentre chez soi et se réveillera demain dans un nouveau monde.
Vous avez
C'était le premier tour vu de là-bas. Sarah Lefebvre, Gaylor, Van Vimerge, Pascal Pascariello, Yann Gallic étaient les reporters. L'un des monteurs n'était autre que Guy Van Cutil. Merci à tous. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et nous envoyer des commentaires également sur le site là-bas.org. Là-bas.org, vous pouvez réécouter avec des photos de la place Stalingrad hier sur le site donc la-bas.org. Et puis on peut se retrouver sur la page Facebook de l'émission qui a dépassé les 10 000 sur Facebook. À la technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Alexandre Chenet, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission sur les chapeaux de roue, assistés de Marina Touyez et Grigory Salomonovitch, comme chaque jour, attend vos messages sur le répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Non mais tu le crois ça ? Hier, 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, ne me dis rien. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un peu.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, non seulement nous vous venons en aide, mais en plus, nous pouvons prendre en charge et payer les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
Voilà, il va être 16h sur France Inter. Il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
François Hollande donne la ligne qu'il observera dans cet entre-deux-tours de la présidentielle en déplacement à Lorient et Quimper cet après-midi. Il vient y prononcer un discours, je cite, sur le redressement de la nation. Le candidat socialiste a également prévenu. Il ira dans les prochains jours dans d'autres régions pour cette fois s'adresser à ceux qui ont exprimé des colères, visés notamment les électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy, lui, est à Tours aujourd'hui. Le président candidat qui a annoncé un grand rassemblement à Paris pour le 1er mai, probablement sur le Champ de Mars. Rassemblement autour, je cite, du vrai travail, ce sont ces mots. Le 1er mai prochain, il faudra donc choisir son camp à Paris entre la manifestation du Front National, la traditionnelle du 1er mai aux côtés des syndicats et généralement des partis de gauche, et donc ce rassemblement de l'UMP. À 13 jours de ce second tour, la Mutualité française interpelle, elle, aujourd'hui les deux finalistes à travers une campagne qui sera diffusée demain et mercredi dans la presse. Elle réclame notamment l'accès de tous à des soins de qualité. Décalage horaire oblige, la presse américaine réagit maintenant au premier tour de l'élection en France. Il reflète un désir de changement, explique la presse américaine. Cette presse américaine qui s'interroge aussi sur l'avenir du couple franco-allemand en cas de défaite de Nicolas Sarkozy. Si François Hollande est élu, écrit le New York Times, une confrontation avec la chancelière allemande Angela Merkel semble inévitable. À l'étranger, les forces de Bachar el-Assad ont bombardé aujourd'hui un quartier de Hama dans le centre de la Syrie. Selon des opposants au régime, l'attaque aurait fait au moins 20 morts. Cet assaut, en tout cas, intervient au lendemain d'une visite des observateurs de l'ONU dans cette même ville. Aujourd'hui, ils sont dans la périphérie de Damas. De son côté, ce matin, l'Union européenne a adopté un nouveau train de sanctions. Elle vise le couple Assad et son goût pour le luxe, puisque les exportations de produits de luxe sont désormais interdites. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de Montpellier a prolongé aujourd'hui de 48 heures la garde à vue d'un homme de 31 ans, soupçonné d'entretenir des relations avec la mouvance islamiste radicale. Il avait été interpellé ce week-end dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet antiterroriste de Paris. La collecte du livret A s'est élevée au mois de mars dernier à près d'1,3 milliard d'euros, ce qui porte à plus de 7 milliards d'euros la collecte depuis le début de l'année, selon les chiffres donnés aujourd'hui par la Caisse des dépôts. La CDC fait savoir dans la foulée que le taux de rémunération est pour l'instant maintenu à 2,25%. Dans son programme, s'il est élu, François Hollande a proposé de doubler le plafond du livret A et de le porter à 30 600 euros. Enfin, on apprend aujourd'hui le corps d'un randonneur de 66 ans qui était porté disparu depuis juillet 2010 a été découvert le week-end dernier dans les gorges du Verdon. Une procédure pour disparition inquiétante était toujours en cours et à l'époque les recherches n'avaient donc pas abouti. Son corps a été retrouvé en fait dans une ravine difficile d'accès. Vous écoutez France Inter, 16h03.
À votre écoute.
coûte que coûte.
Bonjour Philippe.
Bonjour Margaret.
Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu.
Nous sommes là pour vous.
Pour répondre à vos questionnements.
Vos angoisses.
Mais aussi vos doutes.
Voilà, Charles.
Vous êtes rassuré maintenant, Charles, j'espère, hein? À votre écoute, coûte que coûte. Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
France Inter. La différence.
Joli, joli hein, pour vous aujourd'hui comme invité.
Oui, le grand Daniel Barenboim est là, juste derrière la porte.
Allez, amusez-vous bien.
À bientôt, Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, j'ai le très grand honneur, le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Barenboim, pianiste, chef d'orchestre, être mondialement connu parce qu'il a d'autres actions que la musique. Bonjour maestro.
Bonjour.
Eh ben écoutez, bonjour. C'est formidable parce que ça fait 20 ans que cette émission existe, c'est bientôt l'anniversaire, et vous êtes venu, c'est tellement difficile de vous trouver quand même parce que vous avez tellement de voyages, tellement de concerts, vous avez donné 2 concerts à Paris ces jours-ci, Mozart et Bruckner, concerts fantastiques, et puis là vous venez nous parler, alors nous sommes très heureux au nom
Merci
de France
beaucoup.
Inter.
Moi je suis très heureux d'être ici, je suis très heureux de parler avec vous, je me souviens très bien de vous en tant que violoncelliste, et donc... Peut-être c'est moi qui va vous interviewer.
Ah ben peut-être, je suis sûr que vous savez le faire extrêmement bien. Mais vous savez, la musique que vous nous apportez est absolument indispensable. Et je pense que l'histoire de cet orchestre, le divan, comme on dit chez nous, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine qu'on en parle. Pas toute une heure, il y a Beethoven aussi, évidemment, qui est votre sujet favori en ce moment. Parce qu'il y aura un disque, toute une édition qui va sortir à partir du 18 juin. Donc toutes les symphonies de Beethoven, quelque chose, un florilège un peu plus court, en 2 CD, et puis vous allez continuer, édition des sonates, des concertos, tout ça. Donc voilà, alors la question, Beethoven, bien sûr, vous accompagne depuis très longtemps, et quand vous étiez enfant, vous vouliez déjà jouer Beethoven comme une sorte de défi, malgré votre grand-mère qui disait, ah, ça suffit avec ton Beethoven, joue-nous du Mozart, quoi, c'est ça.
Donc,
c'est,
oui, oui.
C'est cette difficulté qui vous a intéressé au départ, non ?
Non, c'est pas la difficulté, c'était plutôt la blague de la famille, que ma grand-mère qui ne s'intéressait pas à la musique, qui ne connaissait rien, elle disait « je déteste Beethoven » sans savoir en effet ce qu'elle disait. Non, mais c'est pas ça, mais j'ai commencé à jouer les sonates de Beethoven assez jeune, et les concerti aussi. Et j'ai joué le premier cycle complet des sonates de Beethoven, j'avais 17 ans. Et ça m'a resté comme quelque chose de très important parce que j'étais déjà, comment dirais-je, un vieux professionnel. J'avais joué mon premier concert à 7 ans et je me suis trouvé à 17 ans. Sans concert, parce que j'étais plus un enfant et j'étais pas encore un adulte. Et alors, il y avait absolument aucun intérêt pour moi, même dans des endroits où j'avais joué. J'étais juvénilement dépressif.
Oui, je comprends, mais Mozart a subi la même chose, parce que quand on est enfant prodige, c'est formidable. Après, il y a le passage de l'adolescence où on intéresse moins. Et en plus de ça, votre père vous a demandé de ne pas jouer avec l'immense Furtwängler, parce qu'on sortait de la guerre, de la Shoah. Oui. Et donc là, vous auriez eu une occasion incroyable, évidemment, de vous faire connaître avec Furtwängler. Et votre père a dit, non, je préfère pas.
Non, mais en tout cas, j'avais pas de concert. Et je rencontrais par hasard un ami à Tel Aviv qui avait été nommé pour la direction de la maison du journaliste, ça s'appelait. Vous avez certainement vu ça dans les années avant, parce que toutes les conférences de presse sur la guerre, ça, se sont faites dans cette maison du journaliste, ça s'appelait. Et il y avait une salle pour 500 ou 600 personnes, là, où mon ami voulait commencer une série de concerts. Oui. Et alors, il me dit, tu n'as pas envie de jouer? Ah, j'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux jouer? Je dis, je vais jouer l'intégrale de Sonate de Beethoven, avec une inconscience enfantine, évidemment. Mais c'est comme ça que j'ai joué le premier Six.
On va écouter, si vous voulez, un peu de la musique des temps assez anciens, parce que vous jouez sous la direction d'Otto Klemperer. Personnage très impressionnant, bien sûr, qui était une sorte de statue du commandeur de la musique. Et on va entendre tout de suite un extrait, c'est le rondo avec la cadence de Beethoven du troisième concerto pour piano et orchestre de Ludwig van Beethoven.
Thank you.